Amis de Radio Silence, bonjour. Trump est un vrai général de guerre. On le découvre aujourd'hui parce que beaucoup l'ont sous-estimé et ils se rendent compte que finalement, ce monsieur, c'est vraiment un chef. Et ça, ça ne peut pas plaire à nos amis, les opposants, qui font beaucoup de bruit, j'appelle cela le bruit visuel, pour un peu tromper les gens, les décourager, ou plutôt, pervertir le message. Bon, qu'est-ce qui se passe? Trump a mis en place un programme qu'on appelle anti-immigration, mais qui n'en est pas un. C'est plutôt un plan anti-criminalité pour baisser un peu non seulement le crime en Amérique, mais en même temps, franchement, il fait coup double ou triple, ou je sais pas comment dire. Non seulement ce plan-là traite de la question de l'immigration, clandestine bien sûr, traite la question de la lutte contre le trafic des armes, traite de la question de la paix, qui passe forcément, contrairement à ce que M. Obama disait, la paix passe par les armes, mais alors ça passe, Obama disait par la guerre. Mais là, du coup, la paix, ça passe par la fin de la guerre. La fin de la guerre, c'est quoi? C'est la fin de l'armement. Comment on met fin à la guerre au Moyen-Orient? C'est très simple. Trump, il a fait quelque chose de formidable. Il a dit, on suspend le plan d'accueil des réfugiés syriens pendant 120 jours. On réduit par deux le nombre de réfugiés que l'Amérique peut accueillir. Et puis, on met fin au visa avec visa d'entrée avec les pays qui sont en guerre et qui n'arrêtent jamais, c'est-à-dire le Soudan, c'est-à-dire l'Éthiopie, c'est-à-dire la Libye, c'est-à-dire l'Irak, c'est-à-dire l'Iran. Bon, l'Iran, je sais pas trop, mais bon, peut-être parce que l'Iran soutient l'Irak, c'est-à-dire le Yémen, là où vraiment, et en Syrie aussi, je sais pas si l'Éthiopie d'ailleurs, bon, vous verrez, et en Syrie aussi, parce que les armes continuent à circuler, et parce que ces armes circulent, les gens sont toujours en guerre, et tant qu'ils sont toujours en guerre, quelque part l'Amérique aussi a un jeu trouble, elle livre les armes en clandestinité à ces rebelles soi-disant modérés qui ont finalement fait savoir qu'ils s'alignaient complètement sur la ligne Al-Qaïda, donc c'était pas du tout des rebelles modérés, ils ont fait leur coming out. Trump, franchement, il fait ce qu'il faut faire, à la guerre comme à la guerre. Un chef de guerre, c'est une chose. Il faut couper les champs de bataille des lieux d'approvisionnement. Et une fois que vous avez coupé cette arrière-là, la guerre se tarit et l'armée s'affaiblit. Hitler, il a été arrêté par des flocons de neige. Tout simplement, les flocons de neige a empêché le ravitaillement d'arriver à temps et les soldats sont morts aussi bêtement. Et c'est une règle élémentaire. Donc, l'Amérique est dehors, tout le monde est sorti. Oui, l'Amérique a une tradition d'accueil. On ne peut pas déroger à cette tradition-là. Il faut respecter, je sais pas trop, vous savez, hein, tout ce champ globaliste, mondialiste, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. L'administration tient bon parce que c'est ce qu'il faut faire. Et moi j'ai ajouté, j'ai dit, alors tout le monde a crié au tollé. Le tollé, il faudrait commencer par le début. Réflexion, on traite quoi? Les causes ou les effets? Alors, il faut traiter les causes, pas les effets, parce que les effets, comme le Ron Paul Institute l'a précisé, par exemple, en parlant de Barack Obama, il a dit le président Obama a fait pleuvoir 26 000 bombes sur partout là au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, je ne sais pas trop, vous corrigerez. Il a fait, lui, il est qualifié de président du roi des drones. Hein. Il y a eu les attaques avec les drones. Il y a eu ce grand plan des États-Unis pour refaçonner, redesigner le Moyen-Orient. Tout cela, depuis 1990, n'a rien produit que de la misère, que plus de sang, que plus de terrorisme. Et donc, ce n'est pas la façon d'opérer, la façon, comment on va dire, des boots, des marines qui arrivent avec la démocratie comme ça, cachée sous leur drapeau. Non, ça n'a pas marché. On fait autrement. On réfléchit, on s'assied et on frappe un bon coup sur la table et on dit c'est comme cela. Pourquoi les opposants alors, ceux qui aiment beaucoup les pays musulmans, pourquoi ils leur disent pas ce que moi j'ai demandé? Il faut que ces pays qui crient l'Arabie Saoudite, le Qatar d'ailleurs, qui nourrissent la guerre au Yémen et un peu partout, il faut qu'ils appellent les belligérants à une seule chose. Déposez les armes. Vous déposez les armes, la guerre est finie et les visas reprennent. C'est aussi simple que cela, c'est ce que Trump leur demande. Je vois pas pourquoi il y a un problème, mais vous savez, les politiciens sont toujours là. Même lorsqu'on prend de bonnes décisions, il faut toujours qu'ils ramènent un peu la politique des bas-fonds et des caveaux avec les médias pervertis qui vont bien sûr toujours crier au loup et tout le monde va faire beaucoup de bruit pour rien. Donc l'administration Trump a dit que c'était non négociable et que ceux des fonctionnaires de l'administration qui ne se sentaient pas bien avec cette décision pouvaient partir et poser leur démission. Donc ça ne peut pas être plus clair que cela. Toujours lutte contre la criminalité, c'est le plan contre la drogue. Et l'immigration clandestine. Oui, c'est vrai qu'à un moment, le président Trump a parlé de construire ce mur avec le Mexique, parce que là, on lutte vraiment contre la drogue, qu'on lutte contre un crime aussi, parce que, bon, voilà, les immigrés clandestins. S'ils viennent du Mexique, très souvent ils sont liés avec la drogue. Et puis après, au niveau des États-Unis, ça fait des règlements de compte entre les gangs qui peuvent déborder sur les personnes. Bon, comment on fait? La question de la drogue est un peu séparée de celle de l'immigration clandestine, quand même, sur un point. Il y a ceux qui sont vraiment pauvres, qui viennent pour s'en sortir. Ils ne sont pas tous des trafiquants de drogue. Et là-dessus, c'est toujours le Rand Paul Institute qui dit il faudrait couper les aides. Bon, vous savez, c'est le truc, couper les aides, parce que d'après le Rand Paul Institute, l'Amérique dépense 100 milliards par an de dollars pour donc financer le fonds de protection de ces cités sanctuarisées où voilà les immigrés sont tranquilles comme à New York, on ne contrôle pas, on n'expulse personne, pour financer un fonds d'aide comme les conseils généraux font, logement, nourriture, argent de poche, Restos du Cœur et Croix-Rouge. Qui finance aussi dans les 100 milliards, on a l'éducation, l'école gratuite, et on a aussi l'aide médicale d'État. Donc pour lui, donc pour Ron Paul, qui était d'ailleurs sénateur et candidat au présidentiel en 2008, je crois, républicain, pour lui, cet argent gratuit, cette gratuité d'argent, gratuité de nourriture, gratuité l'éducation, gratuité de l'aide médicale, et un peu fait un peu des États-Unis, comment dirais-je, la terre promise, mais une terre promise qui n'a de promise que le matériel. Et ce matériel fait que on a eu ce débat ici. Ça fonctionne comme un aspirateur, un appel d'air, disait le président Sarkozy, qui fait que les gens viendront tout le temps parce que tout est gratuit. Bon, moi, ce genre d'analyse, je trouve que c'est un peu raide-pâquerette, un peu mesquin, parce que les gens ne viennent pas seulement pour cela. Les gens viennent vraiment parce que l'Amérique, l'Occident, c'était considéré comme une terre promise, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà du matériel, quelque chose de spirituel, quelque chose où un espace, un lieu où on peut se réaliser, où on peut réaliser ses rêves. Bien sûr, ça passera par le matériel. Qu'est-ce que vous voulez? Nous vivons dans un monde où c'est pas le truc qui marche, c'est le matériel qui marche. Il est quand même étonnant que des gens qui vivent, bon voilà, avec le matériel, ils mènent grand train, font ce genre de critiques qui sont quand même un peu pas de leur niveau. Bon, mais ce qui est plus intéressant que le Ron Paul Institute fait comme réflexion, je me suis basée sur eux parce que c'est un institut très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est l'analyse, l'approche sur les drogues. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les drogues? Est-ce que le mur va mettre fin aux drogues, au trafic des drogues? Non. Non, ça peut, voilà, contribuer à aider un tout petit peu, mais pas vraiment. C'est vrai que dans cette histoire de drogue, il fait allusion, sans vraiment le dire, à la prohibition. Alors, il y a eu ce débat, vous savez, sur l'alcool. Est-ce qu'il fallait-il légaliser l'alcool ou continuer à le laisser comme ça, vendu dans la clandestinité? C'était un débat qui a été tranché. On a dit finalement, il faut légaliser la vente de l'alcool. C'est pareil pour le marijuana qu'on vient de légaliser. Et pour ces drogues, on se demande jusqu'où on peut légaliser les drogues, parce qu'apparemment, c'est le Ron Paul Institute qui le précise, depuis que on a légalisé le marijuana, certains États, on a constaté qu'aux États-Unis, le marijuana, le trafic du marijuana a baissé de 50% depuis 2010. Bon, c'est une piste, mais c'est une piste qui n'est pas, je vais dire, totalement satisfaisante parce que on a de l'autre côté des drogues dures et on a le coût médical. Qu'est-ce qu'on fait? On légalise tout, on accompagne les gens légalement à la mort et au suicide, en leur fournissant des trucs cancérigènes comme les cigarettes, comme l'alcool vendu librement. Et là, c'est encore pire, hein, parce que c'est pas vraiment l'alcool, les cigarettes, c'est vraiment du lourd. Et qu'est-ce qu'on fait? On transfère ça à la sécurité sociale qui va rester déficitaire en permanence. On tue les gens selon, je vais dire, ces gens qui succombent à l'alcool, qui succombent aux drogues, qui succombent à la cigarette. On sait très bien qu'il y a une faiblesse quelque part. Et comment on fait pour traiter cette faiblesse-là? Est-ce qu'on leur donne plus de drogue? Est-ce qu'on les expose plus à la consommation des drogues, comme l'État français qui vend des cigarettes en mettant tout simplement fumer tue. Bon, allez, fumer tue, et puis par la suite, elle traite des cancers qui coûtent très cher à l'hôpital. Jusqu'où l'être humain peut être libre, c'est une question qui est très très vaste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'État peut lui-même prendre en charge la fourniture et la caution des engins et des choses qui, enfin, des engins de la mort. Il faut choisir. Trump a dit qu'il était pro-life. Donc, quand on est pour la vie, on n'est pas pour la guerre, on n'est pas pour les armes, on n'est pas pour tout ce qui est drogue, on n'est pas pour tout ce qui détruit l'humain. Quant à l'immigration illégale, comme on dit clandestine, ça, c'est un débat autre, bien sûr, il touche à la criminalité. Mais derrière l'immigration clandestine, il y a beaucoup plus de choses que la simple criminalité. Il y a des choses qui touchent au rapport, au géopolitique, au rapport donc déséquilibré du monde entre les grands et les petits, qui touchent à ce système financier diabolique qui appauvrit toujours les mêmes et qui esclavagise les mêmes, où les gens sont trop riches. Vous entendez qu'il y en a des multimilliardaires riches en argent volé, s'il vous plaît, au peuple, et en argent planqué dans les paradis fiscaux, et qui organisent des schémas où ils peuvent toujours s'enrichir plus, et de l'autre côté, des gens qui n'en ont pas. Jusque-là, on a quand même la réponse, on va pas dire sécuritaire, mais le plan anticriminalité, ça, on l'appelait de tous nos voeux parce qu'il coupe les vivres aux terroristes. Et d'ailleurs, on se demande dans quelle mesure il passe aussi par le Mexique. Apparemment, oui, pas beaucoup, mais quand même. Mais l'immigration illégale en tant que telle, ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste encore. Qu'on explorera, il faut explorer dans une autre émission, tranquillement, parce que c'est très complexe. Je ne sais pas si certains parmi vous ont vu les reportages sur l'Afrique qui est exploitée, dont le pétrole est volé et les matières premières par la France, et voilà. Et lorsqu'on a ce vol-là, ce pillage organisé, légal au niveau des eaux internationales, je ne vais pas dire internationales, dans un espace que le pays, même africain, ces pays qui crient maintenant contre Trump, oui, ils font rien pour se protéger, ils n'ont rien fait pour protéger Kadhafi. Des deux côtés, la question de l'immigration, je vous dis, elle est très complexe. C'est vrai, l'Occident, ça part de responsabilité, mais les pays d'origine ont une responsabilité encore plus grande que celle des pays, j'allais dire, anciens coloniaux, ou anciennes métropoles, je ne sais pas comment dire, ou anciens colonisateurs. Bon, on continuera ce débat une autre fois, parce que vraiment là, j'ai été très long, il fallait qu'on parle de Trump, l'immigration illégale, on en parlera dans une deuxième partie. Et pour le moment, franchement, Trump, il se révèle être un bon chef. On en avait besoin depuis parce que ce monde, il partait à volo. C'était que de la corruption, que de la propagande, que des mensonges, que de la petite les clientèles. Et là, c'est fini. Il y a un chef. Voilà. Il y a un chef qui parle et qui dit, c'est comme ci, c'est comme ça. Et surtout, un chef qui recherche enfin la protection de la vie. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.